Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors là, on a un petit peu pris le rythme d'été, c'est-à-dire qu'on n'a plus un épisode toutes les semaines, on en a un tous les 15 jours. Ça, c'est parce que sur mon site, à l'écrit, une semaine, il y a une chronicasse, à savoir une chronique de films porno. Oui, 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 on peut le faire. Et puis, l'autre semaine, c'est donc un podcast, un audio sur une lecture érotique. Alors cette semaine, je vais vous lire des extraits de deux nouvelles qui viennent du livre « Oser 20 histoires d'infidélité ». Évidemment, c'est publié par La Musardine, puisque c'est La Musardine qui a inventé ce principe des « Oser 20 histoires ». Si vous ne connaissez pas, je vous en touche quelques mots rapidement. En fait, régulièrement, ils font des appels à texte sur une thématique. Qui veut écrit, envoie sa nouvelle. Il y a un thème à respecter, il y a quelques petites consignes à respecter. Tout est expliqué sur le blog de La Musardine. Et ensuite, il faut une sélection des 20 meilleures nouvelles parmi toutes celles qui sont envoyées. Et ils ont créé un recueil collectif. Donc là, c'est Oser 20 histoires d'infidélité. Et ce qui est rigolo sur ce bouquin, c'est qu'il est en partenariat avec un site qui s'appelle Glidden, qui est une plateforme de rencontres spécialisés dans l'adultère. Et oui, ce sont des hommes et des femmes mariés qui s'inscrivent parce qu'ils sont à la recherche d'aventures extra-conjugales. Alors, on n'aime pas, on veut pas, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce format des Oser 20 histoires. Parce qu'à chaque fois, on a un même thème, mais qui est vu par des auteurs différents. Et je trouve que c'est assez riche, ça se lit facilement. C'est un petit peu le format de l'été, les Oser 20 histoires. Perso, j'aime beaucoup. Alors du coup, j'ai sélectionné deux histoires, deux extraits de nouvelles. Je ne peux pas tout vous lire. Peut-être qu'on y reviendra et qu'on en lira d'autres. Il y a vraiment des nouvelles excellentes dans ce bouquin. Alors la première dont je vais vous lire un extrait s'appelle « Poulette de Bresse ». Elle est écrite par Pierre des Essintes. Oui, oui, le même Pierre des Essintes qui a écrit « La magie sexuelle ». Et oui, il est journaliste, il écrit des essais sur la magie sexuelle, enfin des essais, des introductions. Et il écrit aussi des nouvelles érotiques, le coquinou. Alors on y va, c'est parti, un extrait de sa nouvelle « Poulette de Bresse » qui est paru donc dans le recueil « Oser 20 histoires d'infidélité » aux éditions La Musardine. Lorsque mon oncle m'appela pour me demander de devenir le parrain de sa fille, j'acceptais sans réfléchir, davantage sous le coup de la surprise que par politesse. Le frère de mon père faisait partie d'une branche de la famille que je ne voyais jamais. J'avais 6 ans lorsque mes parents ont déménagé à Paris, loin de ma Bresse natale. Mon oncle voyait peut-être dans ce baptême l'occasion de tisser de nouveaux liens. Ça tombait bien, ma femme Alicia et moi n'avons rien de prévu ce week-end-là. La cérémonie eut lieu dans l'église d'un petit village bressan. Moi, le désespoir des dames catéchistes qui tentèrent en vain de m'inculquer les préceptes évangéliques, voilà que je me retrouvais devant l'autel à réciter le credo aux côtés de la marraine, une lointaine parente prénommée Émilie dont je découvris l'existence ce jour-là, tandis que le curé portait ma petite cousine sur les fonts baptismaux et que chacun, dans l'assistance émue, y allait de sa larmichette. Du coin de l'œil, je regardais Alicia qui souriait, amusée par l'incongruité de la situation. C'est ainsi que ma très jeune cousine, qui n'en demandait pas tant, fut introduite, malgré ses larmes et ses hurlements, dans la grande communauté catholique. Les réjouissances devaient se poursuivre lors d'un déjeuner dans la ferme familiale. Pendant ces bruyantes agapes arrosées de vin de Bourgogne, Alicia se montrait sociable et semblait se divertir des blagues les plus reloues de mon oncle placées à côté d'elle. Je pensais alors qu'elle m'en voudrait longtemps de ne pas être intervenue, dès le début, sur la manière de nous placer à table. En face de moi était assise Émilie, la marraine. Je n'avais pas trop fait attention à elle lors de la cérémonie, mais cette jolie rouquine élevée en plein air, qui ne devait pas avoir plus de 16 ou 17 ans, ne cessait de me lancer des œillades appuyées. En vacances chez mon oncle pendant 2 semaines, elle l'aidait dans les travaux de la ferme, nourrissait les animaux, tondait la pelouse. Le reste du temps, elle révisait son brevet des collèges. Elle m'assaillait de questions sur mon travail, sur la capitale où elle n'était jamais venue, et sur ma foi chrétienne, ce qui me surprit. Elle me confia qu'elle aimerait plus tard se marier dans la petite église où le baptême s'était déroulé. Je lui expliquais que j'avais laissé la religion de côté depuis longtemps, tout en essayant tant bien que mal de dissimuler mon trouble devant sa bouche charnue, ses grands yeux verts et les taches de rousseur qui constellaient son nez retroussé, ses bras laiteux, son décolleté. Alicia toutefois s'aperçut de quelque chose. « Tu arrêtes de draguer les gamines ?» plaisanta-t-elle dès qu'Émilie se fut levée de sa chaise. La gamine en question portait une robe blanche beaucoup trop moulante pour ne pas éveiller chez n'importe quel garçon de coupables pensées. Le déjeuner traînait en longueur, et le deuxième verre de Mare de Bourgogne eut raison de la moitié de la tablée. Évidemment, il n'était pas question de reprendre la route avec un tel degré d'alcoolémie. Une bonne sieste s'imposait donc. Alicia et moi allâmes nous allonger sur le lit d'une chambre d'amis, tandis que d'autres convives préféraient s'effondrer sur le canapé ou sur les transats mis à disposition dans le jardin derrière la maison. Était-ce l'effet de l'alcool, du repas trop riche ? Toujours est-il que je n'arrivais pas à fermer l'œil. Alicia, elle, s'assoupit très vite, s'enfonçant bouche ouverte dans un oreiller de plumes. Ne trouvant pas le sommeil, je sortis faire un tour dans la cour de la ferme. La propriété de mon oncle n'avait pas tellement changé depuis mon enfance. En flânant dans la cour silencieuse, je retrouvais les bruits et les senteurs de la campagne, la poussière chauffée par le soleil, la terre labourée, l'herbe fraîchement coupée, la bouse de vache. Je me souvenais de ces longues journées d'été, faites de rires et de jeux sous le soleil, mais aussi d'ennuis loin de la ville et de mes copains. Je m'éloignais, traînant en lisière du champ où paissaient tranquillement les vaches. Le silence régnait. En revenant, j'entendis du bruit en passant devant le poulailler qui jouxtait l'étable. Curieux, je poussai la porte. Dans l'étable, des toiles d'araignée pendaient des poutres. Une odeur de foin et de poussière me prit à la gorge. Quelqu'un remuait la paille. Je me rapprochai doucement du bruit. Émilie se tenait devant moi, penchée en avant, un panier d'osier à la main. Elle semblait en quête de quelque chose. Quand elle m'entendit, elle sursauta, lâcha le panier. « C'est toi, Pierre ? Tu m'as fait une de ces peurs ?» s'exclama-t-elle, la main sur la poitrine. Elle sourit, me tendit le panier. « Viens, tu vas m'aider à chercher les œufs dans l'étable. » Sans mot dire, je suivis ses longues boucles rouges tombant sur ses épaules. Nous sursautâmes quand une poule, caquetant et battant des ailes, passa entre nos jambes. « Nous l'avons dérangée !» fit Émilie, amusée. « Par ici, regarde !» Elle me montra trois œufs dans un coin de l'étable. « Donne-moi le panier !» Elle se mit à quatre pattes dans le foin pour les ramasser. La perspective qu'elle m'offrit sur ses fesses me provoqua instantanément une violente secousse dans le bas-ventre. Je tentais de me raisonner. « Arrête, qu'est-ce qui te prend ? C'est une gamine !» Mais comment lutter ? Quand elle se releva, je me plaquai derrière elle. Loin de se débattre, elle me prit les mains, se cambra contre moi, renversa sa tête sur mon épaule. Ma queue grossit tout de suite. Émilie murmura. « Je sais ce que tu veux, Pierre. Moi aussi j'en ai envie, très envie. » Elle posa sa main sur ma bite à travers le tissu du pantalon. « Tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure à table que j'étais une bonne chrétienne. » J'avalai ma salive. « Oui, dis-je, et alors ?» Elle soupira. « Je veux rester vierge. » Je mis ses propos, en contradiction flagrante avec son attitude, sur le compte d'une lubie d'adolescente. Elle se retourna et m'embrassa à pleine bouche. Serrée derrière elle, je pétrissais ses hanches larges, je malaxais ses fesses. Ma queue allait exploser. Émilie vibrait de désir. Elle prit mes mains et, sans me quitter des yeux, s'assit dans le foin. À genoux entre ses cuisses, je remontai sa robe et, baissant sa culotte, découvrit un sexe roux aux poils taillés courts. J'embrassais ses cuisses blanches, m'enivrais des effluves piquants du coquillage rose pâle avant d'y plonger ma langue. Moi qui étais habituée au sexe lisse d'Alicia, je me régalais de ses poils de rue qui chatouillaient mes narines et piquaient ma langue. Je pensais à la célèbre réplique de Jean-Pierre Mariel dans « Les galettes du Pont-Aven ».« Toi, tu sens la pisse, pas l'eau bénite !» Émilie haletait. Une pensée me traversa l'esprit. Elle avait déjà inondé ma bouche, mon nez et mes joues de sa mouille odorante. Allais-je pouvoir me rafraîchir avant de rejoindre Alicia ? Mais l'entrecuisse d'Émilie me fit rapidement oublier ma femme. elle ramena ses genoux sur sa poitrine, m'ouvrant un accès à son anus, odorant lui aussi à cette heure et par cette chaleur. De petits poils roux collés par la mouille et la transpiration ornaient la rosette palpitante. J'y enfonçai une langue durcie, tout en extirpant ma queue de mon pantalon. Ma jolie chrétienne respirait de plus en plus fort, tandis que son trou du cul s'ouvrait avec une aisance déconcertante. Je sentis soudain son anus se resserrer à trois reprises autour de ma langue. Émilie venait de jouir. Je me relevai, le rouge aux joues, la queue à la main, impatient de la pénétrer. Elle se plaça à quatre pattes et, écartant ses fesses blanches de ses deux mains, me dit à voix basse « Je veux rester vierge avant mon mariage, mais tu peux me baiser comme ça ?»« Tu l'as déjà fait ?» demandai-je. « Bien sûr, » dit Émilie. « Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais chaque fois que j'ai eu un copain, nous avons baisé comme ça. Viens, » dit-elle, « je vais te sucer, ça rentrera mieux. » J'adore le naturel des filles de la campagne. Elle prit ma queue dans sa bouche et me fit coulisser rapidement entre ses lèvres. Puis elle déposa sur mon gland une quantité de salive, seul lubrifiant à notre disposition. « Viens, on n'a pas beaucoup de temps. » Elle se plaça à quatre pattes. J'introduisis doucement un doigt dans l'orifice étroit. Émilie me fit de la place en se dilatant rapidement. J'entrepris alors de lui fouiller le cul avec un doigt, puis un autre. Elle posa une main sur sa chatte et commença à se masturber. Je déposai un long crachat sur la petite étoile beige et rose, puis présentai ma queue. Poussant par à-coups, du bout du gland, je m'efforçai de détendre son sphincter. Mais mes efforts restaient vains et mon gland s'écrasait sur son cul qui, malgré lui, m'interdisait l'entrée. « Casse un œuf !» gémit-elle. On va s'arrêter là. Pourquoi casse un œuf ? Que vient faire l'œuf au milieu de cette incartade avec une demoiselle de 16-17 ans au charme campagnard incroyable ? Eh bien, je vous laisse le découvrir en lisant la suite de cette nouvelle qui s'appelle donc « Poulette de Bresse ». Elle est écrite par Pierre des Essintes et elle est à retrouver dans « Oser 20 histoires d'infidélité ». Et c'est paru, du coup, aux éditions La Musardine. Alors, on va continuer l'exploration, du coup, de ce recueil de nouvelles. On va continuer avec une autre nouvelle, toujours dans ce recueil, qui s'appelle... Alors, attendez, je l'ai perdu, j'y crois pas. Voilà, qui s'appelle « Les petits mensonges d'Annie C. ».« Les petits mensonges d'Annie C », une nouvelle écrite par Viviane Faure et qui est également dans « Oser 20 histoires d'infidélité ». Et c'est paru aux éditions La Musardine. C'est parti. La première fois, c'était un coup de folie, une erreur, un dérapage. Nul n'est parfait, tout le monde fait des bêtises, des choses qui arrivent. Tous les mariages sont bâtis sur quelques mensonges, après tout. Évidemment, rationaliser était plus dur quand l'objet du délit se trouvait être un ami de votre fils, un gamin d'à peine 17 ans. Mais c'était lui, Maxime. Il était venu la chercher, il avait insisté. Anne s'était dit qu'il n'en reparlerait jamais. Elle aurait du mal à croiser son regard désormais, mais ce qui était fait. Elle s'était hâtée d'oublier. Il y avait quelque chose d'irréel dans cette histoire. Elle n'avait qu'à la ranger dans le tiroir mental de ses fantasmes inavouables, ceux dont elle ne parlerait pour rien au monde à son mari. La deuxième fois, ce fut une affaire du même ordre, un jeu de circonstances. Ce qui s'était passé avec Maxime était impensable. Ça n'avait pas de réalité. Lui, elle, seule, une chambre, du temps devant eux... Autant céder tout de suite plutôt qu'affronter le côté trouble de la situation ou trouver des raisons de dire non. Mais la fois d'après, ce n'était plus le hasard. Maxime était venu chez elle exprès à un moment où il savait qu'elle serait seule. Il avait séché les cours pour venir la retrouver. Bien sûr, elle avait protesté. Elle lui avait dit de repartir, que c'était de la folie, qu'elle ne voulait pas, qu'il ne devait pas. Il avait été arrogant. Dit qu'elle en avait autant envie que lui, qu'elle ne pouvait pas le nier, qu'il savait l'effet qu'il lui faisait. Il avait raison. Elle ne l'avait pas emmené dans la chambre conjugale, non. Ils avaient fait ça dans le garage, sur de vieilles couvertures qu'elle entreposait là. Et puis, cela devint une addiction. et ce qui la rendait réticente au début était peu à peu devenu ce qui l'attirait de plus en plus irrémédiablement, le risque, l'interdit. Son mariage, qu'elle mettait en danger à chaque rencontre avec Maxime, la réaction de son fils s'il apprenait qu'elle avait pour amant un ami à lui. Elle mettait en péril les fondations mêmes de sa famille. Et c'était son moteur. Pour la première fois, Anne agissait de façon fondamentalement égoïste. Elle se faisait plaisir, sans se soucier des autres et même à leurs dépens. Il y avait aussi, bien sûr, l'enthousiasme de Maxime, ses caresses brûlantes, ses baisers affamés, le fait qu'il ne se lassait jamais, qu'il en voulait toujours davantage. Plus Anne lui mettait de barrières, plus il avait à cœur de les faire tomber. Elle se trouvait une seconde jeunesse. Elle avait beau savoir que c'était pathétique, l'envie de continuer était plus forte que tout raisonnement. Maxime avait demandé s'il pouvait l'attacher. Elle avait refusé. Alors, il avait exprimé le désir qu'elle l'attache, lui. C'était encore pire d'une certaine façon. Et parce que c'était encore pire, elle en eut envie. Elle l'avait ligoté à une chaise de jardin, dans le garage, et elle l'avait sucé. Il avait joui au fond de sa gorge en balbutiant des propos incohérents. Elle s'était relevée ensuite, à la fois satisfaite et frustrée, et s'était masturbée debout devant lui. Le garage était devenu le lieu de leurs ébats. C'était sa propre voiture qui y était rangée. Aussi, son mari ne risquait pas d'y pénétrer. Et de cet endroit, on entendait les gens arriver de loin. Elle avait un besoin sans cesse accru de voir le garçon. Comptable de profession, Anne avait le loisir de travailler à domicile. Aussi était-il sûr de la trouver chez elle quand il venait. Pour lui, se libérer était moins facile. Il ne pouvait pas sécher les cours en permanence et quand il était libre, Chris, le fils d'Anne, l'était le plus souvent aussi. Heureusement, les deux copains n'avaient pas les mêmes options et la prof d'éco était souvent absente. Alors le garçon débarquait chez Anne, en sueur d'avoir parcouru en courant la distance entre le lycée et sa maison. Il sonnait. Le corps d'Anne avait appris à attendre ce son, à l'anticiper. Et quand le garçon ne venait pas, elle vivait des journées difficiles. Il lui arrivait de faire une pause entre deux dossiers pour se masturber. Penser à Maxime la mettait en feu. Elle se soulageait rapidement devant son bureau. Elle couchait plus souvent avec son mari aussi. Sa vie sexuelle conjugale ayant repris une certaine activité, Anne s'était dit au début que ça lui suffirait, que désormais elle n'avait plus besoin de voir Maxime et que c'était mieux ainsi. Un retour à la normale. Mais c'était faux. La preuve, lorsqu'elle n'avait pas vu le garçon de toute une semaine, elle n'avait pas non plus envie de son mari. C'était Maxime qui éveillait son appétit sexuel. Sans lui, elle se sentait éteinte, desséchée. Et puis, arriva la période du bac et en perspective, les vacances d'été, la rentrée, la fac. Anne et Maxime n'avaient jamais parlé de ce qu'ils feraient, après. Est-ce qu'ils continueraient à se voir? Est-ce que ça s'arrêterait là? Ils avaient soigneusement évité d'aborder le sujet, mais à part elle, Anne pensait que ces événements marquaient la fin de leur relation. L'étudiant aurait bien d'autres choses en tête une fois à la fac, qu'il rencontrerait des filles de son âge, et elle-même reprendrait le cours de sa vie, comme si cette parenthèse n'avait jamais existé. Anne soupirait. Cette pensée la rendait triste, mais la rassurait aussi. Leur histoire ne pourrait pas se poursuivre indéfiniment. Plus elle se prolongeait, plus il prenait de risques. Les résultats du bac arrivèrent. Son fils organisa une fête chez eux, à laquelle Maxime était invité pour célébrer les lauréats. Le mari d'Anne, en déplacement, n'était pas encore rentré ce week-end-là. On ne pouvait pas remettre la fête à une date ultérieure, car Maxime devait, dès le lendemain, rejoindre avec sa famille leur maison de campagne. Anne se sentait nerveuse. La veille, elle alla se coucher avec une boule au ventre, comme une adolescente qui s'apprête à se rendre à sa première soirée. Cette fête aurait pour elle des airs d'adieu. Après, les vacances d'été commençaient, et puis les deux garçons auraient bientôt leur permis et ils n'auraient plus besoin d'elle pour les conduire à leur compétition. C'était comme ça que son histoire avec Maxime avait commencé. Il l'avait séduite après s'être blessé lors d'un championnat d'athlétisme, pendant que son fils continuait à concourir. Elle dîna tôt dehors avec des amis, ayant promis à son fils qu'elle lui laisserait la maison une partie de la soirée. Il était 11 heures passées quand elle rentra, et la fête des jeunes bacheliers battait son plein. Chris lui avait promis qu'il serait raisonnable, mais l'alcool n'avait visiblement pas manqué. En quittant le garage, Anne crut sentir une bouffée de fumée piquante qui n'avait pas l'odeur du tabac. Dans le salon, son fils et un groupe d'amis installés autour de la table basse jouaient aux cartes. Elle leur souhaita une bonne soirée, puis s'éclipsa. Maxime n'était pas avec eux. Il n'était nulle part en vue. Anne franchit la porte-fenêtre qui donnait dans le jardin. Un groupe d'adolescents fumait et discutait en chahutant. Anne fit une grimace en pensant à l'état dans lequel elle retrouverait ses massifs le lendemain. Elle revint par la cuisine. C'est là que se cachait Maxime, la main enfouie dans le jean entrouvert d'une jeune fille. Sa langue devait se trouver au niveau de ses amygdales. Anne se racla la gorge. « Faites comme si je n'étais pas là. » Les deux jeunes se détachèrent aussitôt. Évitant de croiser le regard de Maxime, Anne quitta la pièce. Elle entendit dans son dos « Merde, c'est la daronne de Chris ?»« Ouais, » répondit Maxime. Anne monta tout droit à sa chambre. Afin de rester dans l'ombre, elle n'alluma aucune lampe, écarta les volets, aspira une grande bouffée d'air, se persuadant qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas la gorge serrée, pas non plus l'envie de pleurer. Maxime avait trouvé une fille de son âge plutôt qu'elle l'aurait pensé. Voilà tout. Elle retira un à un ses vêtements devant le miroir de l'armoire. Elle se contempla. Certes, son corps n'était plus celui d'une adolescente, mais elle demeurait une femme séduisante, aux formes harmonieuses. Elle s'observa un moment dans sa parure de sous-vêtements. Dentelle noire, nœud rose. Elle pouvait bien faire comme si de rien n'était, mais la vérité, c'est qu'elle avait mis cette tenue pour Maxime. Elle s'était même changée avant de partir pour le restaurant. Le matin, elle s'était aussi soigneusement épilée. Était-ce contre lui ou contre elle-même qu'elle éprouvait de la colère? Ou bien, était-elle simplement triste? Ça devait finir, elle le savait, se l'était répété. Mais elle aurait voulu que les choses se passent autrement. Une nuit dont le souvenir la réchaufferait pendant des mois, plutôt que ce truc glauque qui ne lui laissait qu'amertume et dégoût. Anne était sur le point de dégrafer son soutien-gorge quand la porte de sa chambre s'ouvrit. Maxime n'avait pas même pris la peine de frapper. Il était entré et avait refermé derrière lui. « Va-t'en, Maxime, je n'ai pas envie de te voir. » Il ne l'écouta pas, mais marcha droit sur elle. Non, elle n'allait pas lui faire le plaisir de reculer. Elle resta bien en place et il s'immobilisa à quelques centimètres d'elle. Anne était furieuse. « Va-t'en, » répéta-t-elle. « Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Va te faire foutre. Oh, ça va. C'est pas à toi de me faire la morale sur la fidélité, hein. Ce n'est pas... Pas quoi? Pas pareil ?» Elle se tut parce que c'était précisément ce qu'elle avait failli dire et qu'elle prenait conscience de son hypocrisie. Maxime poussa son avantage. « Vas-y, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu baisses plus avec ton mari. » Elle inspira la mâchoire crispée. « Ça n'a rien à voir. C'est toi qui as voulu ça. Et tu as quand même du culot de faire ça sous mes yeux dans ma maison. »« C'est comment ? Il te prend en missionnaire, là, sur ton lit, le samedi soir ? Il arrive encore à te faire jouir ?» La colère d'Anne était retombée. Elle se sentait juste fatiguée et triste. Elle avait froid. « Allez, ça suffit. Va rejoindre ta petite copine, Maxime. Tu n'as rien à faire là. »« C'est pas ma copine. C'était juste. C'est toi que je veux. » Il fit encore un pas, si bien qu'il se retrouva carrément collé à elle. Et il l'embrassa. Le corps d'Anne était trop habitué au sien. Il lui répondait en mode pilote automatique, par instinct. Elle ouvrit encore un peu plus la bouche pour accueillir son baiser en sentant les mains du garçon glisser sur sa chute de rein. Elle se dégagea d'un coup. « Arrête ! Je suis sûre que tu as les doigts encore tout gluants de sa mouille !» Il la lâcha, et en la regardant droit dans les yeux, il porta sa main à son visage. Il renifla, et puis mit son index et son majeur dans sa bouche et les suça posément sans la quitter du regard. Elle aurait dû être dégoûtée, mais il y avait quelque chose dans l'insolence du geste qui la remua profondément et l'excita. Il s'essuya les doigts sur son t-shirt, puis remit ses mains exactement là où elle se trouvait auparavant, au creux des reins d'âne. Il descendit lentement jusqu'à ses fesses qu'il prit à pleine paume. Il pressa, assez fort. Anne siffla. Elle se défit de sa prise. « Attends !» Dans le tiroir de la commode, elle prit la clé et alla fermer la porte. Alors, comment cette nouvelle va continuer ? Qu'est-ce qui va se passer entre eux ? Est-ce que ça va continuer en plus, encore et encore et encore ? Quand est-ce que cette histoire d'amour complètement incongrue avec un ami âgé de 17 ans, un ami de son fils, comment ça va continuer ou se finir ? Eh bien, je vous laisse découvrir ça en lisant « Oser 20 histoires d'infidélité ». Donc, pour ceux qui n'ont pas tout écouté au début, je rappelle, c'est un recueil de 20 nouvelles. Toutes sont sur le thème de l'infidélité, mais elles sont toutes écrites par des auteurs différents. Moi, j'adore cette collection. Donc, c'est publié par La Musardine, c'est disponible en librairie ou sur le site de La Musardine. Et puis, pour les auteurs, pour les liens, pour vous acheter le livre, tout ça, pas d'inquiétude, vous avez tous les liens sur mon site, sur l'article qui présente la lecture du jour. Je vous redonne mon site, c'est lec.charlie-liveshow.com. lec.charlie-liveshow.com et là, promis, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin et vous avez également tous les précédents podcasts de lectures érotiques. S'il y en a que vous avez loupé et que vous avez encore envie d'entendre une histoire excitante avant d'arrêter. En tout cas, cet épisode-là touche à sa fin, donc moi je vous retrouve très bientôt, vous pouvez reprendre une activité normale et je vous dis à très vite. Ciao.